Caron sur Twitch.
Je refuse la sexualisation de la femme.
Ah, ça tombe bien, Marceau aussi.
Marceau le midi.
À tous, un excellent lundi sur les ondes de Boulevard 101. C'est le 418-971-101. S'il se passe quoi que ce soit sur la route, comment s'est passé votre fin de semaine? Avez-vous été pris dans la circulation? Gros reportage du côté de Québécois. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. D'habitude, son pro-maire de Québec. Et là, en fin de semaine, on parlait de du trafic, que ce soit sur les ponts ou encore sur le circuit routier de la grande région de Québec, et on dit que le trafic va continuer, ça ne cessera pas et ça va peut-être même s'amplifier. On en jase tantôt vers 12h30. Parce que oui, le pit stop, on a mis ça exceptionnellement aujourd'hui à 12h30 avec Denis Gravel, mais on a la chance de vous avoir remplacé ça par un homme d'exception, Nicolas Gagnon, la Fédération canadienne des contribuables, qui est là pour en jaser. Salut Nick, comment ça va?
Bon midi, ça va bien. Super bien, toi?
Ça va bien. À Laval, avez-vous des problèmes de congestion?
Pas autant qu'à Montréal, mais le trafic de l'île de Montréal finit toujours par déborder sa couronne nord et sa couronne sud. Fait qu'on en a à peu près à tous les jours, mais c'est pas aussi grave qu'à Québec. Mettons qu'on a plus de ponts entre Laval et Montréal qu'entre Lévis et Québec. Donc, on souffre moins de ces problèmes de trafic-là que dans votre région.
Ça, ouais. Et dans le temps, on nous disait vous parlez de congestion à Québec, mais vous connaissez pas Montréal. Là, maintenant, les gens de Montréal nous disent OK, la fin de semaine, c'est rendu raide, là, dans le secteur des ponts. Là.
Puis, même si j'adore Jean-René Dufort, Infoman, MCG, je les adore, je le dis. Moi, j'adore écouter cette émission-là. J'avais quand même été outré du fameux reportage dont on prend les ponts, puis que c'était une journée où il n'y avait pas nécessairement de trafic.
À 8h15.
Je sais pas, c'était quand.
C'était à 8h15.
C'était à 8h15, en semaine, de mémoire.
Un vendredi.
Mais il y avait quelque chose, puis tu sais, c'était après la pandémie. Ouais. C'était ça ou c'était... Peu importe. C'était pas nécessairement ce qu'on vivait quotidiennement. Ouais. Mais là, si on refait ça, j'ai l'impression que tout le monde pognerait 2 minutes, puis arrêterait de dire qu'on a... je sais pas, moi, chialé pour rien, là.
Ben, le pire, c'est qu'il aurait pu faire ça une journée où est-ce que, je veux dire, oui, le trafic était pas si dense, mais où est-ce qu'un des deux ponts qui est fermé, là, il aurait vu une méchante différence, même si c'est une journée avec moins d'achalandage. Donc, on s'entend que c'est facile de jouer avec les chiffres ou avec l'impression. Là, surtout, je pense, si je me souviens bien de cette vidéo-là, puis moi aussi, je suis un fan de Infoman, mais il n'en reste que la vidéo, j'avais trouvé ça un petit peu moyen parce que ça avait été fait, je pense, à l'occasion du bye-bye ou du moins pour le nouvel an, là, ou la fin de l'année, je pense, l'année dernière ou l'année d'avant. Puis oui, bon, au final, on réalise que dès qu'il y a un des deux ponts qui est fermé, soit Pierre-Laporte ou le pont de Québec, ou qu'on se fait dire qu'on a un détour à faire par Trois-Rivières, ben le narratif, il prend le bord pas à peu près. Puis oui, le troisième lien, on pourra jamais assez répéter à quel point c'est ridicule que ce débat-là, il s'éternise encore, puis qu'il n'y ait peut-être même pas une première pelletée de terre avant qu'il y ait une élection au Québec. Mais regarde, on peut continuer à croiser les doigts. Il semblerait que Bernard Drainville, ce que j'ai vu sur Twitter, en fin de ou X, dans les derniers instants, c'est lui qui tweet l'article en disant qu'on a besoin d'un pont, d'un troisième lien à Québec. Donc, peut-être qu'éventuellement, ça va se faire. Mais
qui a tweeté ça, là, moi, je X, c'est ça. Dites ce que vous voulez. Blue Sky, ça. Je trouve ça incroyable parce que rappelez-vous à quel point il s'est fait rabrouer par la CAQ quand il y a eu annulation du dit projet, là, ou du moins, on a dit on n'en fera pas de troisième lien. Puis c'en est un qui a la ferveur qu'on doit avoir un nouvel axe pour la ville de Québec, puis entre Lévis puis la Rive-Nord. Lui, il continue sa quête. C'est un petit peu subtil, mais en même temps, ça dit tout.
Absolument. Puis ben, moi, je pense que ce qui en rajoute le plus, puis ce qui a un petit peu fait mentir la CAQ elle-même là-dessus, c'est à quel point il y a eu un 180 degrés dès qu'il y a eu une défaite dans Jean Talon. Ça a changé le ton à peu près, puis ça a démontré que les gens de Québec n'étaient pas du tout d'accord avec la conclusion de la CAQ, malgré le fait qu'il y a encore des partis à l'opposition qui semblent répéter qu'un troisième lien, c'est contre la science, puis tous les arguments possibles qui sont les plus décousus. Ouais. Mais au final, la CAQ va finir par écouter, ou sinon les gens de Québec vont se faire entendre par quelqu'un d'autre.
T'sais, on se le fait souvent dire, ça, par les politiciens qui sont de passage sur les ondes de boulevard. Oui, mais nous, on se fie à la science. L'autre jour, j'étais dans ma douche, puis je pensais à ça. Tu sais, les politiciens qui me disent...
J'adore que tu précises
oui, mais
où,
Yann?
Yannick.
Comment?
On voulait tellement que tu précises où tu étais. Vas-y, mon grand Nostradamus.
J'étais dans ma douche, je me lavais le cul, puis je pensais aux politiciens.
C'est chiant
d'en rajouter. Qui me disaient qu'eux, ils se fient à la science. Puis je me suis dit, tu sais, quel argument, moi, je pourrais avoir contre cet argument-là de « Oui, mais nous, Yann, on se fie à la science. » Puis là, maintenant, j'en ai trouvé un, mais ça vient de ma douche, là, c'est pas une cachette. C'est depuis des décennies, les politiciens du Québec et du Canada se fient à la science. Considérez-vous qu'actuellement, vous fiez à la science, vous en avez pour votre argent? On regarde tout ce qui était, tout ce qui nous entoure, que le gouvernement s'occupe. Il se fie tout le temps sur des experts, que ce soit pour nos infrastructures, que ce soit pour notre système de santé. C'est toujours des experts, c'est toujours la science derrière ça.
Moi, j'aurais juste répondu, la science de qui?
La science
parce
de
que
qui?
Ça peut être ma science, ça peut être ta science, ça peut être la science de quelqu'un qui a été payé pour dire favorablement ce que tu penses, mais ça peut être aussi des experts crédibles.
Fait, quand François Paradis, pas François Paradis, quand...
François Legault.
Paradis, comment il s'appelle? Le
Pascal Paradis.
Quand Pascal Paradis me dit « Oui, mais Yann, pour le troisième ligne, nous, on se fie à la science », ben c'est ce que je vais lui répondre. Mais la science de qui? Parce que le Québec a été bâti sur la science de toutes des experts et regardez où on en est rendu présentement. Mais bref, hey, c'est pas de ça que je voulais jaser avec toi, Nick. Désolé, on va en parler tantôt avec Denis Gravel dans le Pit Stop. Mais merci beaucoup de changer d'horaire pour nous accommoder. Tu nous aides beaucoup.
Ben, ça fait bien plaisir. Puis écoute, le dernier point que je pourrais rajouter à la science, c'est qu'il existe plusieurs sciences. Il y a la science économique, il y a la science environnementale. Puis tu peux faire dire un peu n'importe quoi aux deux. Fait que c'est généralement ça, la job des politiques, quand ils sont capables de bien faire spinner ça. Mais,
puis la science infuse, ben personne là non plus. Hein?
Non, c'est ça. C'est une autre catégorie de science.
Non, même pas toi, Yannick. J'ai vu tes petits yeux à te questionner si tu l'avais.
Ben, c'est parce que j'essaie de le faire croire à mes gars là, quand je les ostine.
Okay. Dis-leur de ne pas écouter la radio parce que tu vas perdre beaucoup de points.
Hey, Nick, dernière découverte de la Fédération canadienne des contribuables, c'est 76 000 $ par mois en location d'œuvres d'art que ça nous coûte à la grandeur du Canada. Mais à quoi ça sert, cette location d'œuvres d'art-là?
Ben écoute, la réponse va te décevoir, mais ça sert à décorer les bureaux des fonctionnaires fédéraux. Littéralement, c'est la petite découverte qu'on a faite à la Fédération. On a découvert, en fait, dans le fond, janvier 2016 et juillet 2024, dans le fond, les agences et les ministères du gouvernement fédéral ont fait pas loin de 1445 locations auprès de la Banque d'art pour essentiellement mettre des œuvres d'art dans leurs bureaux. Et cette location-là, elle est facturée aux contribuables. Donc, comment ça fonctionne, c'est que à chaque année, la Banque d'art du Canada fait l'acquisition via... La Banque d'art, faut comprendre qu'elle est contrôlée par le Conseil des arts du Canada elle-même, qui est une société d'État fédéral. Et via leur Banque d'art, ils vont acquérir des œuvres, des peintures, des sculptures d'artistes émergents et des artistes célèbres du Canada. Et ils vont mettre ça dans une banque. Donc déjà, on paye pour l'acquisition de ces pièces d'art-là. Et par la suite, ils vont louer ces pièces d'art-là aux différents fonctionnaires qui en font la demande pour qu'ils puissent l'entreposer dans leur bureau et ainsi décorer les différents... bureau du gouvernement, tant pour, comme je dis, des ministères que les agences fédérales et même jusqu'au Sénat et à la Chambre des communes. Donc, on n'a malheureusement pas un détaillé de chaque agence ou de chaque ministère, ne serait-ce qu'au niveau des coûts, mais on est en mesure d'obtenir vraiment la facture totale. Et depuis janvier 2016, ça a coûté 7,8 millions de dollars pour que les fonctionnaires puissent louer des œuvres auprès de la Banque du Canada, plutôt la Banque d'art du Canada, et entreposer ces œuvres-là dans leur bureau, même s'ils ne sont pas là tout le temps. On sait qu'il y en a plusieurs qui sont même là à temps partiel.
Ouais.
Mais au final, les contribuables payent donc deux fois. On paye pour l'acquisition de ces œuvres d'art-là. On paye également pour leur location. Et ça, même s'il n'y a pas grand monde qui les voit, parce que dans des bureaux généralement cloîtrés ou est-ce qu'il y a à peu près une ou deux personnes par jour qui vont y rentrer, puis ça inclut la personne qui va faire le ménage le soir même. Donc au final, c'est quand même 76 000 $ en moyenne que ça coûte par mois. On a eu des exceptions. Des fois, ça pouvait coûter jusqu'à 120 000 $ aux contribuables pour louer des œuvres d'art qui ne sont pas du tout exposées au public, ou du moins qui sont exposées, mais dans des lieux publics fermés au public. Donc, c'est une dernière découverte comme ça qui nous rappelle qu'au gouvernement fédéral, je veux dire, ça, c'est rien, bien sûr. On parle quand même bien de la pointe de l'iceberg comme telle en termes de dépenses, parce qu'on compare ça à toutes les autres dépenses pharaoniques, mettons, jusqu'à la dette qui a doublé. C'est 76 000 $ par mois, ça a l'air de pas beaucoup, mais c'est surtout de voir l'utilité de cet argent-là, puis comment est-ce que c'est, encore une fois, un autre gaspillage éhonté qui est bien caché aux yeux des contribuables. J'ai à rappeler que le Conseil des arts du Canada a reçu quand même en subvention pas loin de 300 millions de $ au cours de l'année 2023-2024. Donc, c'est pas comme si on manquait d'argent, mais on arrive à facturer les contribuables pour de la location d'art que vous ne voyez pas, mais pour lequel vous payez bel et bien.
OK, mais là, je veux juste être sûr. On donne un exemple comme ça qui n'existe pas. Là. Le penseur de Rodin. On veut acheter le penseur de Rodin, on achète le penseur de Rodin, puis on met ça dans le bureau de Justin Trudeau. Fait qu'au départ, c'est le Canada qui achète le penseur de Rodin, puis après ça, on loue ça au Parti libéral du Canada?
Ben, en fait, ce qui arrive, c'est, mettons que Justin Trudeau, effectivement, il se posait un œuf comme ça dans son bureau. La première des choses, c'est que la Banque d'Or du Canada va acquérir ce tableau-là.
Voilà.
Ensuite, le bureau du premier ministre va débourser une somme auprès de la Banque d'Or pour louer cette œuvre-là, ne serait-ce que pour une période donnée. Et donc, nous, on va payer, donc, en tant que contribuable, l'acquisition de la pièce d'or pour qu'elle soit entretenue à la Banque d'Or. Puis après ça, on paye pour le bureau du premier ministre pour qu'il puisse exposer une pièce dans son bureau. Mais dites-vous que ça touche les 200 ministères et agences fédérales. Donc, c'est pas quelque chose qui est vraiment que le goût de luxe d'une seule ou quelques personnes dans le gouvernement fédéral, qu'on a réussi à grimper une facture de 7,8 millions de dollars ou sinon 76 000 dollars par mois en frais de location. Ça démontre que c'est un fait qui est assez généralisé là, dans la fonction publique fédérale.
Oui, puis il y a des employés qui doivent veiller à la gestion de toutes ces opérations-là. Là. Des œuvres d'art sont rendues où, sont là pour combien de temps, va la chercher, va la porter à tel endroit. Je veux dire, on s'entrecute un peu avec cette histoire-là. Là.
Ben oui, absolument, puis c'est ça, ben le Conseil des arts, c'est justement eux qui sont en charge de surveiller, dans le fond, là, toutes ces pièces d'art-là, où est-ce qu'elles sont entreposées, à qui elles sont louées, puis quand il faut aller les déplacer, ou quand il y a un problème, ou même quand il arrive un accident, puis une des pièces d'art qui est brisée, ben c'est eux qui s'en chargent, mais je veux pas à tout moment, on subventionne le Conseil des arts, on subventionne la Banque des arts, on subventionne l'acquisition des arts également, mais ce qui est le plus dérangeant, c'est qu'on va aussi subventionner la location de ces pièces d'art-là pour des bureaux de fonctionnaires. Ce qui est carrément ridicule, comme pour plusieurs raisons. D'un, parce que c'est de l'art qui est déjà, je veux dire, tant qu'elle subventionnait avec l'argent des contribuables, ça doit être rendu public, ça doit être de l'art qui va être exposé au grand public et non pas dans des bureaux cloîtrés, où est-ce que les fonctionnaires veulent même pas retourner 3-4 jours semaine pour l'instant, ils s'obstinent avec leur syndicat par tous les moyens pour pas y retourner à temps plein. Et fait que là, c'est de se dire, OK, d'accord, donc on a subventionné autant de pièces d'art qui sont dans des bureaux à moitié vides et par-dessus le marché, je veux dire, on paye deux fois pour la location de pièces d'art comme telle, ça fait aucun sens, mais c'est une énième dépense comme ça qu'on a trouvé au courant de la dernière semaine qui fait bien jaser. Et ça a même fait la page principale du Toronto Sun en fin de semaine. Donc, on est assez fiers de cette découverte-là. Par contre, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le gouvernement fédéral change son approche et dise okay, peut-être que c'est un petit peu trop, on devrait dire aux fonctionnaires d'arrêter de louer, de prendre des pièces d'art, des œuvres d'art comme telles parce que c'est variable. Ça peut être n'importe quelle pièce allant d'une peinture à une sculpture à autre. Ben, je veux dire, est-ce qu'on peut leur retirer le portefeuille qui fait en sorte que cet argent-là soit mieux utilisé ailleurs, surtout dans le contexte d'un gouvernement qui a un déficit de 46 milliards puis une dette qui a doublé en dedans de 8 ans? Ça serait le fun d'avoir un minimum de gros bon sens à quelque part là-dedans.
Puis on n'a pas de garde partagée si jamais nous aussi on aimerait, puisqu'on l'a payé et financé, en avoir un petit bout dans notre salon.
Ben c'est ça le pire, mais le pire là-dedans, c'est que vous, si vous voudriez peut-être la louer, ben je sais pas si c'est le même processus, mais si vous vouliez louer une pièce d'art de la Banque d'art du Canada, vous devriez débourser ça de vos poches, en fait, pour être en mesure de l'acquérir ou la louer. Vous pouvez pas l'acquérir comme telle, mais si vous êtes un fonctionnaire dans la fonction publique fédérale qui est déjà dans un bureau que vous pourriez décorer avec vos propres moyens, comme la plupart des travailleurs font dans le privé, ben vous pouvez littéralement prendre une dépense puis la mettre sur votre compte de dépense comme telle et avoir une pièce d'art dans votre bureau. C'est un peu ridicule parce que c'est quand même un luxe qui n'est pas à la portée de tout le monde, alors qu'au final, c'est vous et moi et ceux qui écoutez présentement qui payent pour ça.
Ouais, c'est weird. Hein? Tu sais, souviens-toi, à la mi-octobre, on parlait de François Legault qui avait dépensé 1300$ d'argent des contribuables pour s'offrir un chandail officiel des Canadiens de Montréal qui arborait le nom de Guy Lafleur, puis ensuite, il l'a fait encadrer. C'était au total tout, là, parce qu'il y avait un gilet aussi pour lui. C'était autour de 6000$ que ça avait coûté aux contribuables pour que François Legault puisse avoir un gilet de Guy Lafleur dans son bureau, mais on disait que c'était pour la décoration. Mais à partir du moment où François Legault s'en va, là, ce gilet-là, il s'en va où?
Ben c'est ça, ils disent que c'est la décoration de l'Assemblée nationale comme si c'était un ajout au patrimoine de l'Assemblée. Je pense que le patrimoine de l'Assemblée nationale est déjà assez complet comme ça, mais d'un autre côté, sur le gilet qui est dans le bureau du premier ministre François Legault, il y a l'autographe, il y a la signature de Guy Lafleur, puis c'est marqué à François ou à Legault, quelque chose comme ça. Fait que je suis pas mal sûr que ce chandail-là, si jamais François Legault s'en va, démissionne ou passe les prochaines élections, ben il va garder le fameux cadre, puis ainsi que le chandail qui a quand même coûté plusieurs milliers de dollars et qui a refilé ça aux contribuables en catimini avec une carte de crédit d'un de ses ministères. Donc, c'est aussi le fait qu'ils ont tenté de cacher la transaction. Ça, c'est ce qui est le plus dérangeant là-dedans.
Mais ça veut dire qu'ils savaient fort probablement que ça n'avait pas de sens. Hein? Oui. Ça va-tu au mérite aussi? On aimerait savoir si c'est plus rentable, le gouvernement.
Ben, c'est ça serait le fun de savoir, effectivement. En plus, là-dedans, il avait pas juste acheté un chandail pour lui-même, mais également pour tous les autres premiers ministres de la Confédération. Fait que c'est, ça, c'est le petit cadeau diplomatique auquel on est habitué, mais c'est le fait qu'il s'en soit gardé un pour lui-même, que ça a coûté plus cher de le faire encadrer que le coût du chandail lui-même pour le mettre dans son bureau puis essayer de faire passer ça comme pour une simple dépense de décoration quand c'en est pas du tout une. Donc, à la fin de la journée, quand on considère les salaires de chacun là-dedans, lui, François Legault est lui-même millionnaire, mais quand on va voir, par exemple, les fonctionnaires dans la fonction publique fédérale qui font dans les six chiffres pour la plupart, là, je veux dire, le nombre de personnes qui font plus de 100 000 dans la fonction publique fédérale a augmenté drastiquement, pour moins de 40 % les dernières années. Ils sont capables de décorer leur bureau par eux-mêmes, puis je pense que ça serait le fun que les contribuables qui payent pour des œuvres d'art comme telles n'aient pas à payer une seconde fois pour une location de luxe qu'un fonctionnaire a décidé de se payer sur leur dos.
Oui, écoute, j'ai assisté à une soirée, je pense que c'était c'était-tu un 25e ou un 30e anniversaire, mais bref, on était là, puis j'ai rencontré une ancienne de la Coalition Avenir Québec qui me disait « Moi, je pars parce qu'on fait tout mal. » Puis l'histoire là, du gilet de Guy Lafleur, là, ça a fait partie un peu de sa décision, c'est-à-dire avouer un homme indépendant de fortune qui a mentionné plusieurs fois être multimillionnaire, qui se ramasse comme premier ministre du Québec, puis qui s'achète, avec la carte des contribuables, s'achète un gilet de Guy Lafleur du Canadien, le fait encadrer, puis en plus se prend en photo avec ce dit gilet-là. Elle dit « Tout a été fait de travers dans cette histoire-là. » Puis t'as un François Legault qui refusait de répondre aux questions des journalistes par rapport au fameux gilet de Guy Lafleur qui s'était payé avec l'argent des contribuables. Énormément de gens à la CAQ. Puis au fédéral aussi, j'imagine que ça doit être la même affaire. On se rend compte que nos dirigeants, des fois, sont pas gênés de prendre notre carte de crédit.
Mais ça ajoute l'insulte à l'injure. Tu sais, là-dedans, en plus de pas vouloir répondre aux questions puis de le faire signer à son propre nom. Si tu voulais que ça soit quelque chose dans le patrimoine, au minimum, tu fais pas signer ton propre nom. Tu fais signer quelque chose par rapport à l'Assemblée nationale. Mais toi, Yannick, t'es quand même chanceux.
Bon.
Parce que t'as eu gratuitement une œuvre d'art à tes côtés à chaque jour depuis quelques mois.
C'est donc bien gentil pour Nicolas Gagnon, ça. Je pensais pas que t'allais être gentil de même avec.
T'es gratuit, Nick, là.
Ben, c'est gentil, je le prends bien.
Ouais, c'est ça. Hey, Nick, il y a des coupures de 1,5 milliard de dollars qui s'en viennent en santé. On parle de gel d'embauche. C'est-tu fini le party à la CAQ, là?
Oui, écoute, tu peux poser la question, c'est y répondre. Oui, c'est pas mal terminé. Le retour à la réalité, il revient tranquillement. Comme on a vu en fin de semaine de l'annonce, comme quoi est-ce que l'Agence Santé Québec serait déjà sur le point de faire des coupures de pas loin de 1,5 milliard en santé. C'est quand même pas rien. On disait 1 milliard à base, on est rendu à 1,5 milliard selon les rumeurs. Faut quand même corriger un peu le tir sur la manière que l'information circule, parce que pour l'instant, on parle de coupures comme si c'était des coupures directement dans les structures ou les services. C'est pas exactement ça qui se passe présentement, parce que la réalité, c'est que dans le dernier budget, les dépenses en santé augmentaient de 2,7 milliards. C'est une augmentation de 5,3%. Donc, c'est ce 2,7 milliards-là qui va être amputé. Donc, essentiellement, au lieu d'augmenter les dépenses de 2,7 milliards, on les augmente de 1,2 milliards. Donc, c'est moins que prévu. Et c'est ce manque à gagner-là qui est décrié de part et d'autre par les syndicats ou par les gens qui sont en première ligne dans les services et qui disent que ça pourrait affecter la qualité des soins et tout ça. Mais disons que l'image est plus grande que ça. La réalité, c'est que tranquillement, mais sûrement, on se rend compte que le retour à l'équilibre budgétaire au Québec et que même le déficit qu'on a présentement, il risque d'être plus important que prévu et le retour à l'équilibre budgétaire plus difficile à obtenir que prévu également. Je tiens à rappeler que ce jeudi, le ministre des Finances, M. Éric Girard, est supposé présenter sa mise à jour économique d'automne. Donc, on va savoir où est-ce qu'on en est au niveau des dépenses, des revenus du gouvernement pour l'année en cours et si les projections qui étaient dans le budget sont les mêmes. Or, on nous annonce déjà des coupures en santé par rapport aux dépenses prévues. On sait que Hydro-Québec a eu un très mauvais premier semestre cette année, moins bon que l'année précédente, alors que l'année précédente, c'était une très mauvaise année par rapport aux 20 dernières années. Donc, disons que ça va très mal au niveau des revenus de la société d'État qui sont importants pour les revenus du gouvernement du Québec. Donc, tout ça étant considéré, je m'attends à des mauvaises surprises ce jeudi. Je m'attends à faire dire que le déficit, finalement, il n'est pas 11 milliards, mais peut-être même plus. Et ça joue beaucoup parce que si il s'avère qu'on a un déficit plus important et qu'on a la difficulté à revenir à des finances équilibrées, ben les agences de crédit pourraient revoir à la baisse
la décote
du Québec. Exact. Et ça peut faire mal parce que la raison du pourquoi, c'est qu'en ce moment, au Québec, à tous les niveaux, si on prend la dette du Québec plus les sociétés d'État, c'est pas loin de 330 milliards que ça nous, qu'on a en dette au Québec. Mais le coût de la dette, lui, c'est pas loin de 9 à 10 milliards par année en intérêt sur la dette. Puis ça, c'est très peu. Je veux dire, c'est très peu. C'est beaucoup d'argent, entendons-nous, mais ça pourrait augmenter rapidement si jamais les taux d'intérêt augmentent. Et les taux d'intérêt augmenteraient dans ce cas-ci, non pas à cause des taux de la Banque du Canada, mais plutôt à cause du fait que les banques feraient moins confiance au Québec à cause de notre cote de crédit moins intéressante. Et ça aurait un impact sur la marge de manœuvre qu'on perd à chaque budget, ne serait-ce que pour rembourser les intérêts sur la dette. Donc, ouais. J'espère me tromper à 100%, il était carrément à côté de la plaque, puis je lui dis, on a des bonnes nouvelles, mais il semblerait que le gouvernement annonce plutôt l'inverse, le message, ou du moins, on prépare le terrain pour des mauvaises nouvelles ce jeudi, et mais nous, on va quand même marteler le message le plus important qui est à entendre là, auprès du gouvernement, c'est il doit nous livrer un plan pour le retour à l'équilibre budgétaire dans les plus brefs délais, soit maintenant, soit d'ici le prochain budget, sinon ça passera pas. Et je vais donner même écho à la lettre qui était dans la presse ce matin de mon chef des RAGI de l'opposition officielle qui demande un directeur parlementaire du budget à Québec. On aurait vraiment besoin d'un parce que si on veut avoir vraiment un œil un peu plus objectif sur la situation des finances, sur comment est-ce que notre argent est utilisé, puis c'est quoi les projections à long terme pour l'économie du Québec. J'ai de la difficulté à prendre au sérieux les projections qui changent et qui varient à toutes les 2-3 mois de Éric Girard. On aurait besoin vraiment d'un expert neutre là, pour nous donner vraiment, une véritable idée de c'est quoi la situation des finances publiques au Québec présentement.
Ouais, d'ailleurs, on va en parler avec David Chabot tantôt vers 12h50, 12h55, le PQ, comme tu l'as dit, qui veut créer un directeur parlementaire du budget. Mais revenons à jeudi. Je m'attends aussi à ce que ce soit un déficit plus gros qu'escompté. On parlait d'11 milliards. Puis là, à ça, il y a un déficit structurel entre 4 et 5 milliards de dollars. Là, ça veut dire qu'on n'a plus l'impression qu'on est capable de couper. Est-ce qu'on va revenir à la fameuse austérité de Philippe Couillard, puis on va s'en aller en guerre avec les syndicats, comme c'était dans le temps avec Couillard?
Est-ce que tu l'as appelé Philippe Couillard parce qu'il nous a dépouillé dans le temps?
Exact. Parce que c'est lundi. Mais est-ce qu'on va revenir à ça? Parce qu'on va tout faire pour éviter le mot austérité, mais on n'aura pas le choix.
Bien, l'affaire, c'est que c'est pas tant une question d'austérité, mais plutôt c'est aussi une question de plus de rigueur. Puis c'est drôle parce que c'est quasiment joué sur les mots à ce niveau-là, mais c'est de ralentir le rythme des dépenses. Parce que ce fameux déséquilibre au niveau là, ben, fiscal, ou plutôt qui est structurel au Québec, c'est dû au fait qu'on a des dépenses qui sont non compressées, qui justement, c'est des salaires, qui est des fonctionnaires qui jouent le plus là-dedans.
Exact.
Faut reconnaître que la moitié des dépenses du gouvernement, c'est des salaires. 70% des dépenses en santé, c'est aussi des salaires. Et quand on regarde, par exemple, l'augmentation des dépenses en santé, juste pour ce portefeuille-là, quand la CAQ est arrivée au pouvoir, c'était 38 milliards le budget en santé. Maintenant, c'est 62 milliards. On a augmenté ça de 24 milliards. On accuse, d'une part, le vieillissement de la population puis la pandémie, mais la réalité, c'est que quand on augmente de 64-65% un budget en aussi peu de temps, plus rapidement que la population du Québec, il y a un problème, mais le problème il est vraiment dans les effectifs, dans la fonction publique, mais tu sais, en santé, la poche qu'on a pris, au lieu de faire entrer plus de privés, de permettre un peu plus de choix et justement d'alléger le poids des hôpitaux publics, ben, on essaie plutôt de créer une super structure qu'on appelle l'Agence de santé Québec, où est-ce qu'on va garrocher plein de personnes du privé qui deviennent des fonctionnaires à la solde du public, mais qui vont être subventionnés et payés par les contribuables, de même que pour tous les nouveaux fonctionnaires qui se sont ajoutés et qui ont eu une augmentation de 10 % de salaire tout récemment, alors que l'agence n'est même pas encore en place totalement. Donc, tu sais, c'est de regarder vraiment comment est-ce que le gouvernement a ajouté des structures et des effectifs sans s'attaquer aux problèmes les plus profonds avec lesquels on doit composer depuis déjà plusieurs décennies.
Falloir aller chercher de l'argent d'une manière où on sente que c'est notre devoir en tant que contribuable versus un gouvernement qui a dépensé à la va-vite dans plusieurs choses et qui n'a pas tenu un budget serré. Puis, tu sais, rappelons-nous, justement, après Philippe Couillard, les coffres étaient pleins. La CAQ a utilisé ça à bon escient en donnant des chèques en ci, en ça. Si on utilise encore un mot comme austérité, sûrement qu'il va être changé, en tant que contribuable, malgré tout, même si c'est ironique dans le discours, va pas falloir s'insurger tout de suite parce que c'est des mesures à prendre, là.
Absolument. Puis, tu sais, au final, c'est quand même drôle de voir le gouvernement, bien, c'est pas vraiment drôle, là, mais c'est de le voir le gouvernement annoncer des coupures, d'une part, alors que d'un autre côté, on vient de donner un autre chèque de 250 millions de dollars à Nemaska Lithium. On est prêt à rajouter de l'argent dans Northvolt si jamais il y a plus d'argent privé qui est mis sur la table. Même chose pour Lyon Électrique.
Lyon Électrique est en vente, là.
Il est en vente, puis Northvolt est sur le bord de la faillite.
C'est penny stock.
Mais c'est de voir le gouvernement qui est prêt à prendre l'argent des contribuables puis la garocher dans toutes les directions tant que ça finit dans la filière électrique, peu importe les conditions données, pendant que les contribuables qui payent pour des services et des programmes, ne serait-ce qu'en santé, on voit, malgré les budgets augmentés, on voit quand même la qualité ne serait-ce que ne pas aller en s'améliorant littéralement. Puis oui, pour venir à bout de ce fameux déficit structurel qu'on a au Québec, il y a deux solutions. Soit on coupe effectivement dans les effectifs qui alourdissent là, les dépenses du gouvernement, ou sinon, puis ça c'est la solution qu'on ne préconise pas, mais qui est préconisée par certains, dont Mme Grandmont dans la presse en fin de semaine, qui est d'augmenter les revenus du gouvernement. Puis comment est-ce qu'on fait ça? C'est en augmentant les taxes et les impôts. Et ça, je suis pas mal sûr que personne ne peut entendre parler de ça. En fait, la grande majorité des Québécois ne veulent pas d'augmentation d'impôts ni de taxes. Donc, la CAQ est comme pris entre l'arbre et l'écorce présentement. Et avec les agences de crédit qui cognent à la porte du ministère des Finances, ben ils n'ont pas le choix, effectivement, de prendre des décisions qui sont pas très populaires, peut-être pas pour leur base ou peut-être pas pour certains journalistes ou médias à Montréal, mais il n'en reste qu'à la fin de la journée, le party est terminé, puis la CAQ va devoir mettre ses culottes puis faire le ménage.
En 2018, la Coalition Avenir Québec proposait de faire économiser au gouvernement 1,18 milliard de dollars par année en limitant le gaspillage et en réduisant la bureaucratie. François Legault voulait éliminer 5 000 postes administratifs au gouvernement. Et depuis qu'il est au pouvoir, il n'a fait que le contraire.
Ben exactement. Dans les ministères, on a augmenté ça de 10 000, le nombre de fonctionnaires. Puis qu'on prend les effectifs hors fonction publique, donc l'éducation et la santé, c'est 62 000 qu'on a rajouté dans ces secteurs-là. Donc au total, 72 000 fonctionnaires de plus depuis que Legault est arrivé au pouvoir. D'ici la fin de l'année, selon les dernières projections du dernier budget, ça va monter à 80 000. Et pourtant, on n'observe malheureusement pas d'amélioration. Et ce qui est le plus dérangeant là-dedans, c'est qu'on s'intéresse un peu plus aux détails des chiffres. On remarque que sur les fameux 72 000 fonctionnaires de plus, il y a juste 9 % des infirmières, puis seulement 9 % que c'est des professeurs. Donc, c'est de constater à quel point le personnel de bureau et les cadres, eux, sont beaucoup plus nombreux sous l'administration de François Legault. Et c'est ce qui coûte le plus cher et c'est ce qui rajoute le moins de valeur plus pour les contribuables.
Exact. C'est plusieurs embauches, mais finalement, sur le terrain, on ne voit pas vraiment la différence. Nicolas Gagnon de la Fédération canadienne des contribuables, on se reparle lundi prochain, mon ami.
Avec plaisir, à très bientôt.
Pour suivre la Fédération canadienne des contribuables, c'est contribuable.ca. 418-971-101, s'il se passe quoi que ce soit sur la route, tu voulais ajouter quelque chose?
Ben...
Faut que tu allumes ton micro. Ouais.
J'aimerais ça savoir combien de montants annuels sont disposés pour le genre de cadeau, mettons, protocolaire. Ça serait une nouvelle mission. Je vais écrire à Nicolas Gagnon, là.
Ouais.
Mais c'est quoi l'enveloppe budgétaire, tu sais, ouais, pour ça? Ouais, il a ouvert une porte de Pandore.
Se priver des cadeaux quand on a presque plus d'argent.
Ben, tu sais, moi, si j'ai une entreprise, de toute manière...
Juste les gens normaux qui font ça.
De manière, si j'ai une entreprise, Yannick, là, puis ouais, j'ai la chance de donner un cadeau protocolaire à, je sais pas moi, X, Y personne, président à l'international qui vient, je le chargerai pas, là. Fait qu'il y a sûrement des entreprises qui se partantent aussi.
Voilà. Tu viens de leur donner une idée. Midi 29, on vient.
C'est payant d'écouter Boulevard Sandrin.